Je crois l'avoir entrevue, confirma l'aventureux. Un rôdeur, en robe sombre et capuchon. Du bras tendu, il indiqua une direction. Ses compagnons ne virent que la ramée et les ombres, qu'elle lui-même n'en découvrit pas davantage. Mais la pie prit son envol en jacassant et se fondit en un instant sous le couvert. On entendit son caquet railleur résonner de plus en plus bas, en direction de la rivière invisible. Puis, soudain, son babillage se transforma en crierie rauque. Et un instant plus tard, l'oiseau jaillissait hors des arbres pour revenir se percher sur l'épaule de son maître, le plumage gonflé.
« Par ma foi, qu'est-ce qui a pu effrayer cette impertinente ?» s'étonna le sire de Vaumacel sur un ton plus amusé qu'inquiet.
« Je vais aller voir !» décida Kell en détournant son petit cheval. Mais le vieux Nem le retint par la bride.
« Oh là, pas si vite, étourdi !»
pensa-t-il.
« On ne t'a rien demandé. »
« De fait, il n'est peut-être pas très indiqué d'apostropher ce forestier, » confirma le sire de Thèves. « Il s'agit probablement de l'un des frères qui servent le sanctuaire. »
Le chevalier pinça les lèvres avec dédain.
« Ces pieux hommes ne sont pas toujours de compagnie très agréable, » énonça-t-il. « Lors de mon précédent voyage, nous en avons croisé un représentant aux portes du château, un prêcheur aussi éloquent qu'impudent, qui s'était mêlé de la justice du seigneur de Vers. Croyez-moi, dispensons-nous de ce fâcheux commerce tant que le resplendissant nous en épargne les nécessités. »
L'aventureux lui décocha un sourire narquois. « Et encore, c'est peu dire, » persifla-t-il. « Leurs prédications sont d'un mortel ennui. »
Peu après, les premiers monuments funéraires firent de discrètes apparitions aux abords de la route. Stèles éparses, dalles tapissées de feuilles mortes, caveaux engloutis dans les ombrages, ils ne ponctuaient encore que de loin en loin les futaies lépreuses. Tandis que le chevalier au pie se renfrognait davantage, le sire de Vaumacel examinait avec une attention grave les sépultures que longeait la compagnie.
C'est une curieuse ironie que nous apportions la nouvelle de la mort de Devin de Belcastel,
finit-il par dire sur un ton songeur.
Je n'ai eu qu'une fois l'occasion de deviser avec lui, alors que je le prenais pour un simple ermite. Il m'a donné un conseil que j'ai trouvé fantasque et que j'ai même oublié quelque temps. D'après lui, une tombe située au bord du chemin de Vers porte les armes de Vaumacel. Devin m'a recommandé d'en déchiffrer l'épitaphe. Sur l'instant, je n'y ai guère prêté d'importance. Mais maintenant que nous traversons le bosquet, ce souvenir me revient de troublante façon.
Avez-vous des parents qui ont été inhumés à Vers ?
S'enquit Cowir de Thèves. Pas à ma connaissance. Je ne suis point d'assez haut lignage. Du reste, il est probable que Devin se trompait. Il avait convenu de lui-même que le blason n'était pas tout à fait identique.
Malgré le scepticisme qu'il affichait, le chevalier aux épines n'en continua pas moins à scruter les sépulcres et le chevalier de Thèves en fit autant par obligeance. À mesure qu'il cheminait, la nécropole se faisait plus dense. Des allées transversales se perdaient sous les branchages mités. Caveaux et chapelles se dressaient au milieu des feuillages. Des portails opposaient aux passants les ferronneries de leurs battants clos. Des statues endeuillées ou sévères perpétuaient en silence leurs veillées funèbres. Au pied de ces sentinelles minérales, ou aux chambranles des tombeaux, étaient sculptées des armoiries dont les quartiers héraldiques publiaient les vieilles alliances des maisons de Bromel. Des cartouches proclamaient parfois des devises à demi effacées dans une langue désuète que l'on ne pratiquait plus guère. Les voyageurs n'y découvrirent rien qui ressemblât aux armes de Vaumacel. Le chevalier au pie, tout en se laissant porter par le pas de son cheval, affichait à présent une expression de réprobation peinée.
« Décidément, cet endroit n'est pas à votre goût !»
compatit aimablement Cohir de Thèves.
« Il n'est pourtant dépourvu ni de beauté ni de majesté. »
« Il n'est rien qui prête au rire dans cette cité où vos morts sont enfouis, »
marmonna l'aventureux.
« Du moins leurs dernières demeures sont-elles fastueuses et tranquilles ?»«
N'est-ce point une folie de consacrer tant de ressources et tant d'art à des cendres ensevelies ?»«
Nous reprocheriez-vous le respect que nous vouons à nos aïeux ?» Votre vie est si longue, Sir Hamelin, que vous n'avez pas à vous soucier de la postérité de votre renom et de vos œuvres. La nôtre est si brève que nous ne pouvons bâtir et faire fructifier nos accomplissements qu'au fil des générations. Voilà pourquoi le dernier séjour de nos défunts est si fastueux. Il ne s'agit pas seulement de sépulcres, mais de monuments lignagés. Au sein de ces tombeaux reposent nos origines et nos fins, notre inscription même dans la tradition et la terre de Bromel.
L'aventureux avait prêté une oreille distraite à ce discours, comme s'il ne le comprenait qu'à moitié.
« Ne le prenez point en trop mauvaise part, » répondit-il.
« Mais ce faste funéraire vous ancre dans la mort plus que dans la vie. » Le culte rendu au père ne fait qu'entretenir la mélancolie.
Et quoi? Quelle ingratitude ce serait d'oublier ceux qui, avec l'existence, nous ont légué leur nom et leur honneur. Et qu'en est-il chez vous dans les cinq vallées? Votre longévité merveilleuse ne vous épargne pas, hélas, les ombres du trépas. Il y a un instant, vous évoquiez les compagnons que vous avez perdus jadis. Vous ne les oubliez donc point? Quel rite leur avez-vous réservé quand ils vous ont quitté?
La question indisposa visiblement le chevalier Hopi, qui jeta un regard de biais au sire de Thèves. Mais prenant sur lui, l'aventureux finit par lui adresser un sourire tranchant.
Que vous me le demandiez est une cocasserie extravagante, répliqua-t-il. Avez-vous donc oublié ce que vos coutumes et liturgies récentes doivent à nos rituels? Pourquoi inhumer vos morts dans des bosquets? Pour le repos éternel de nos défunts, nous plantons à leur chevet des faines ou de jeunes pousses. Ainsi germent-ils dans la sève et l'aubier en reviviscence douce. Le prophète de votre Dieu desséché a détourné nos usages quand il a enténébré vos cimetières de parcs aux sombres ombrages.
Pourtant, certains de vos morts illustres ne sont-ils pas inhumés dans des sépulcres? À Bourpreux, dans le temple de la vieille déesse, on peut toujours se recueillir devant les tombeaux du prince Osirian et du sage Guillaumère.
Le chevalier Hopi se rembrunit un peu plus à l'évocation des héros disparus.
À l'origine, lors de leur mise en terre, la ville n'existait point. Une fois fondée, le premier sanctuaire fut érigé assez loin des deux tombes et de leurs arbres funéraires. Lors de sa reconstruction, le temple a hélas englobé dans son aire le jardin des afflictions. C'est là une décision des échevins qui, comme vous le savez, sont en grande majorité des humains.
Au fil de ces discussions, les cavaliers finirent par toucher au but de leur voyage. La vallée s'était élargie devant eux et leur route plongeait dans une orgueilleuse ville des morts. Le grondement caverneux du flot qui s'engouffrait dans l'abîme du saule serre résonnait le long des allées funèbres. Mais le bel ordonnancement des coupoles, des rotondes, des frontons et des toitures crêtées de ferronnerie paraissait s'étioler à l'ombre du château. La fortification formidable, surgie du lit de la rivière, couvrait la nécropole du nuage crénelé de ses tours et de ses pinacles. Elle jetait un froid de cave jusque dans ce beau jour d'été. La tête levée vers les courtines démesurées, les bretèches vertigineuses et les poivrières suspendues, les visiteurs pouvaient difficilement se défendre contre la crainte qu'inspirait ce gigantisme castral.
Des trois chevaliers, seul Cohir de Thèves y avait été récemment reçu. Et encore y avait-il été introduit par le seigneur des lieux. Or, il se présentait à présent porteur de mauvaises nouvelles, avec deux compagnons dont la réputation faisait débat. Par sa seule masse, le château de Vers mettait en garde les nouveaux venus contre les contrariétés que pourrait susciter leur démarche. Quant à l'expression du chevalier au pis, elle s'était faite presque hostile. Il n'avait accordé qu'un coup d'œil distrait aux cimes de la forteresse. Son attention avait en revanche été retenue par la frise mutilée qui ornait la muraille. Avec un mélange de réprobation et de dédain, il avait suivi du regard les fragments de danse macabre qui y restaient lisibles. Mais c'était surtout les fondements de l'enceinte, bâtie dans un schiste sombre, qui exerçaient sur lui la plus grande répugnance. Ces remparts n'ont pas été édifiés par les ducs ou leurs enchanteurs, siffla-t-il. De son côté, quoiqu'il se gardât bien de le remarquer à haute voix, Cohir de Thèves fut soulagé de constater que l'entrée de l'édifice était exempte de pendus. Il prit la tête de la petite troupe pour franchir le premier pont sur l'Andoune et se présenter au châtelet d'entrée. Les portes de la tour Malestrue étaient ouvertes, mais la herse barrait le passage. Les sergents de faction reconnurent le chevalier de Thèves, et une fois renseignés sur l'identité de ses compagnons, chargèrent l'un des leurs d'avertir le château.
Aurons-nous l'honneur d'être reçus par le seigneur Méléagan ? S'enquit le sire de Thèves pour meubler l'attente.
Derrière la grille, les hommes d'armes le dévisageaient avec circonspection.
Il faudrait d'abord que vous soyez reçus, avant de vous soucier par qui ?
Fit valoir un vétéran à l'expression finaude. Le chevalier de Thèves fit mine de ne pas prendre ombrage de cette impertinence.
Eh bien, la confiance règne, releva le sire de Vaumacel. Cela dit, après l'attentat contre madame la duchesse, à quoi d'autre s'attendre ?
Les violences faites aux dames ruinent toute civilité, renchérit Cohir de Thèves sur un ton désolé.
L'ordre de laisser passer les voyageurs ne tarda point à revenir, et la herse fut levée devant les cavaliers. Ils traversèrent le tunnel formé par l'entrée, dont la voûte était percée d'un assommoir avant de retrouver la lumière du jour. Un second pont se présentait à eux. Une passerelle en dos d'âne, fort étroite, au parapet de pierre peu élevé qui enjambait assez haut le flot de la rivière. À peine plus large qu'un sentier, le tablier du pont contraignait à marcher en colonne. Un sergent d'armes ouvrit le chemin aux chevaliers. Probablement effrayés par l'étroitesse de la voie, plusieurs montures renaclèrent à s'y engager, dont les pâles froids du chevalier au pis et du sire de Vaumacel. En empruntant ce ponceau, sous lequel grondait un courant qui se précipitait vers les chutes voisines, on plongeait dans l'ombre de la muraille et de tous les encorbellements que formaient bretèches, échauguettes, ours et mâchicoulis. Cela donnait l'impression que le château penchait vers le visiteur et menaçait de l'écraser de tous ses déséquilibres. La porte de l'enceinte, serrée entre les panses schisteuses des tours, ouvrait une gueule toute dentée par les crocs de la herse. Bien qu'il fît encore plein jour, les voyageurs eurent ensuite le sentiment de déboucher au fond d'un ravin crépusculaire, tant les édifices qui cernaient la cour occultaient le ciel. D'un seul coup, on abandonnait l'espace ouvert et triste de la nécropole arborée pour entrer dans un autre monde. Un puits palatial où les tours et l'autel seigneurial, à partir des étages, devenaient dentelles de pierre, façades constellées de galeries ouvertes, fenêtres à meneaux et mascarons. Mais l'étroitesse de la cour et le gigantisme du château privaient de lumière cette architecture flamboyante, noyant de pénombre les porches, les baies et les croisées. Un comité d'accueil détourna toutefois l'attention des cavaliers de ce faste vertical. Quelques échansons en grande livrée venaient leur présenter le pain, le sel et le vin de l'étrier. Derrière ses serviteurs, des valets d'écurie se tenaient prêts à récupérer les rênes des chevaux. Mais ce fut l'homme qui se tenait devant tout ce personnel qui attira l'œil des chevaliers. Un pourpoint de sandales piqué de 3 brins d'immortel donnait une élégante tournure à sa carrure de combattant. Dame de Maubrenas attendait juste devant l'entrée. Son rude visage éclairé par un sourire, il accueillit ses compagnons d'armes à bras ouverts, sitôt qu'ils émergèrent du portail.
« Cordoroy, quel plaisir de vous retrouver en bonne forme »
lança-t-il à l'adresse des sires de Vaumacel et de Thèves.
« J'ai eu scrupule à vous quitter si blessé au lendemain du tournoi, mais vous êtes d'une trempe qu'on ne fait plus, et nous voici réunis comme devant !»
Saluant avec une familiarité un peu cavalière le chevalier au pie, il se réjouit également.
« Et vous nous ramenez l'un des champions aventureux. Le resplendissant vous bénisse. Voici une recrue de choix pour le parti de la dame. »
À peine Cohir de Thèves avait-il mis pied à terre, le sire de Maubrenas vint l'étreindre avec joie.
« Ainsi se reforme l'hôtel de madame la duchesse !»
se félicita-t-il.
« Justement !»
repartit le chevalier de Thèves.
« Comment dame Auderde se porte-t-elle ?»
Le sourire de dame de Maubrenas flotta un instant avant de retrouver tout son éclat.
« La dame va mieux !»
affirma-t-il avec conviction.
« Beaucoup mieux. La blessure était grave. La peste emporte l'assassin. La duchesse est restée un moment entre la vie et la mort. Nous avons bien failli perdre espoir. Et puis, un mieux s'est produit. Un véritable miracle. Et la dame est revenue à elle. Elle ne s'est pas encore complètement relevée de ce coup traître, mais elle se remet petit à petit. Nous en sommes tous tellement reconnaissants.
C'est là l'essentiel. »
soupira le sire de Thèves.
Nous avions entendu dire que Madame Auderde avait survécu à ce traquenard ignoble, mais je ne saurais dire combien je suis soulagé par vos paroles.
Et moi de vous voir arriver en renfort. Depuis le jour funeste où la duchesse a été attaquée, nous veillons sur elle nuit et jour. Fitzurse du Havne ne devrait pas tarder à vous saluer. Je l'ai fait avertir de votre arrivée. Mais il montait la garde dans son antichambre et il doit se faire relever avant de nous rejoindre. »
Alors que les serviteurs de verre venaient aider les servants des 3 chevaliers à décharger les chevaux, la conversation se mit à rouler sur les blessures des sires de Thèves et de Vaumacel. Dame de Maubrenas complimenta le premier en ne le voyant marcher qu'avec une légère boiterie et le second sur sa vigueur recouvrée.
« Ah, sire Edan, il n'y a pas que la duchesse qui soit miraculée !»
s'écria-t-il.
« C'est grande merveille de vous voir aussi fringant quelques semaines après le coup dont vous avez été navré. »
Le péril couru par Madame Auderde m'obligeait à guérir au plus vite,
répondit le chevalier aux épines.
« La duchesse sera-t-elle disposée à recevoir nos hommages ?»
s'enquit Cohir de Thèves.
« Je ne saurais répondre pour elle !»
répondit le chevalier de Maubrenas.
« Une fois que vous serez rafraîchi, je vous mènerai d'abord à la dame de verre. En fonction de l'avis que rendront les mires, c'est elle qui vous instruira quand vous serez mis en présence de la duchesse. »
Le chevalier au pie était demeuré un peu en retrait pendant cet échange. Bien qu'il eût sauté à terre, il tenait toujours la bride de sa monture et la tête levée. Il contemplait le puits vertigineux que les fortifications haussaient au-dessus de la cour. Son attention s'attardait sur les nombreuses statues qui enrichissaient les meneaux, les niches en tabernacle et les lointaines fêtières. Il rendait avec dédain leur regard aux seigneurs et prélats de pierre, mais revenait souvent aux étranges mascarons semés un peu partout sur les façades où veillaient des têtes de cerf aux prunelles de chat. Un mouvement finit par le détourner de tous ses ornements. Après avoir longé la galerie de bois du premier étage de l'hôtel noble, un nouveau venu en descendait l'escalier vers la cour. C'était un chevalier en grand harnois, qui s'était juste dispensé de coiffer le haume. Un tabard sombre couvrait sa cuirasse, rehaussé de discrètes armoiries. Les sourcils finement dessinés de l'aventureux se froncèrent, et son expression se fit farouche, pendant qu'il toisait l'arrivant. Fitzurse du Havre, en dévalant les dernières marches, affichait un sourire aussi radieux que disgracieux, la lèvre retroussée sur la gencive et des dents mal plantées.
« Enfin une visite de bon augure !» s'écriait-il. « Bienvenue aux champions de l'Indinas !»
Et sans plus de façon, il tomba dans les bras du sire de Thèves, puis du sire de Vaumacel, frottant sa joue rugueuse au leur.
« Quelle bonne fortune de vous avoir parmi nous, debout et vaillant ! Décidément, le bon droit est de notre côté. Nous nous relevons de tous les coups durs !»
Malgré sa bonne humeur, les frères d'armes qui l'embrassaient le trouvèrent plus pâle et marqué qu'au sortir du tournoi, comme si son âge l'avait rattrapé en quelques semaines. Ses tempes avaient blanchi. De nouvelles rides plissaient ce front fuyant et de grandes cernes assombrissaient son regard. Les sires de Thèves et de Vaumacel se gardèrent bien d'en faire la remarque et rendirent ses accolades au chevalier servant. Bien qu'il connût à peine le chevalier Opi, Fitzurse du Havre se tourna vers lui pour le saluer avec autant de chaleur que ses compagnons. Mais l'aventureux l'arrêta d'un regard, l'expression remplie d'indignation et de menace. Un instant, les deux preux se firent face dans un saisissant contraste entre le profil racé et hostile de l'elfe et le museau déconcerté du vétéran. Quoiqu'il n'eût point esquissé un geste, il était évident que l'aventureux du bois Oiselet était sur le point de frapper, tandis que le chevalier du Havre, surpris par cette animosité, paraissait refroidi.
« eh bien, sire Hameline, » intervint doucement Cohir de Thèves. « Ne reconnaissez-vous point notre preux compagnon, sire Fitzurse ?»«
Je découvre un insensé !» repartit l'elfe sur un ton mordant.
Pointant un doigt accusateur sur la poitrine du vieux chevalier servant, il s'enquit d'un air comminatoire.
« Comment osez-vous arborer ces couleurs ?»
Froissé par le geste comme par les paroles, Fitzurse du Havre se redressa à son tour dans une attitude belliqueuse.
« Que vous importe, drôle d'oiseau ? Parlez-moi encore sur ce ton et je vous montrerai ce que j'ose tout court !»
Ce brusque éclat déconcerta les autres chevaliers. Les sires de Thèves et de Vaumacel ne purent s'empêcher de considérer le tabard que l'aventureux désignait de façon si cavalière. Il est vrai qu'il attirait leur attention sur un changement singulier. Au lieu de porter les armoiries de son lignage, de sinople à nef d'or, le chevalier du Havre avait adopté un sombre blason, de sable à l'étoile violette. Cela ne correspondait à rien qui eût appartenu à sa famille, ni aux couleurs de la duchesse Odéarde. Quant au sire de Maubrenas, il parut plus ennuyé que surpris et tenta de s'interposer.
« Allons, ne montons pas sur nos grands chevaux, » grommela-t-il. « Restons courtois. Ici, nous sommes tous du même parti. »
Mais les yeux fauves de l'elfe étincelait de colère, et il prit de haut cette intervention.
« Avez-vous perdu la vue ? » s'emporta-t-il. « Comment souffrez-vous ces armoiries honnies ? Sitôt qu'elles sont apparues, je me suis cru tomber en place ennemie. De sable à la douce amère. Ce sont les couleurs de l'ordre des Dolans. »
Les chevaliers de Thèves et de Vaumacel en eurent les yeux dessillés. Ils venaient de réaliser que le meuble héraldique qu'ils avaient pris pour une étoile formait les pétales stylisés d'une douce amère. Le symbole qui avait disparu depuis deux siècles des blasons et des armoriaux restait célèbre dans les maisons nobles comme chez le peuple. Les chansons de gestes en avaient conservé la mémoire.
« Et quand bien même cela serait ?»
rétorquait Fitzurse du Havre sur un ton assez raide.
« En quoi cela vous regarde-t-il ?
J'ai jadis été en guerre contre cette congrégation de démons. Avez-vous perdu l'esprit ? Ce blason saigne l'infamie et l'horreur. »
« Vous parlez d'une guerre vieille de deux siècles, »
objecta Dom de Maubrenas.
« Comment auriez-vous pu en être ? De reste,
Les choses ont bien changé depuis lors.
Il est des signes maudits, qui malgré les ans portent toujours malheur, se récria l'aventureux. Ces armes furent portées par les pires tortionnaires des archontes.
Mais l'archonta a disparu depuis longtemps, s'interposait toujours le chevalier de Maubrenas.
Sir Fitzurse a revêtu cet habit par humilité, et non par je ne sais quelle perfidie.
Cette raison est biaisée. Les Dolans ont toujours invoqué ce comte.
C'est pourtant le motif de mon vœu,
répliqua le chevalier du Havre.
Remettez encore en question ma moralité ou mon honneur, et nous en causerons sur le pré.
L'esclandre, en plus de retenir l'attention des échansons et des valets, attirait des curieux aux fenêtres et détournait les sentinelles de leur garde sur le chemin de ronde. Le chevalier de Vaumacel tenta à son tour de calmer la querelle avant que les choses n'allassent trop loin.
« Sir Hamelin, dit-il, il serait regrettable de lancer un défi à cause d'une méprise. Je suis sûr qu'une discussion plus posée dissipera vos alarmes. Le chevalier du Havre est un prud'homme courtois qui n'a rien à voir avec l'ennemi des temps jadis. »
Mais le chevalier au pis secouait la tête d'un air farouche.
« L'ordre impie des Dolans a toujours recruté des gens secourables, zélés, loyaux et aimants, pour corrompre ses qualités admirables en les mettant au service d'une ferveur dévoyée et mortifère. C'est le pire maléfice, le crime perpétré par des cœurs sincères.
« Mesurez vos paroles, »
conseilla le sire de Vaumacel.
« Nul ne remet en question vos préventions contre l'ennemi que vous avez jadis affronté. » Mais c'est aller un peu vite en besogne que d'accuser Sir Fitzurse de la même folie ou des mêmes fautes sur la simple foi de couleur.
La colère de l'aventureux parut se reporter sur son compagnon.
« Quel langage tenez-vous » s'écria-t-il. « Oseriez-vous renier votre allégeance ? Vous connaissez plus que tout en quelle haine la dame tient cette engeance. »
« Sir Tom a pourtant raison. Commençons par aplanir ce qui est sans doute un malentendu. »
Le chevalier au pis lui adressa une moue menaçante.
« Je ne me laisserai pas abuser par des arguments fallacieux, » gronda-t-il. « Il est temps de rompre là. Je ne saurais rester en pareil milieu. Edan, si vous m'en croyez... « Fuyez la Vézanie qui gagne ses lieux avant d'en être infectée !»
Tout en ouvrant des mains conciliantes, le chevalier de Vaumacel exprimait son désaccord d'un léger mouvement de tête.
« Mon cher Hamelin, je vous en prie, parlons-en à tête reposée. Vous n'allez pas nous quitter alors que nous venons d'arriver. »
« C'est pourtant ce que j'ai à faire de mieux. » Si vous me déconseillez de purifier cette place par l'épée.
Allons, mettez-y un peu du vôtre, et je suis assuré que Sir Fitzurse fera de même.
Mais le chevalier au pis remettait déjà le pied à l'étrier.
C'est demander l'impossible, déclara-t-il une fois en selle. Cette demeure est déjà pestiférée. La suite est très prévisible.
Ayant fait signe à ses pages de le suivre avec ses chevaux, il tourna bride en direction de la porte. Fitzurse du Havre, l'œil sombre, se redressa comme s'il allait railler cette dérobade, mais fit un effort visible sur lui-même et garda la bouche close. Dame de Maubrenas, en revanche, ne chercha pas à contenir un mouvement d'humeur.
« Hé, quoi ? Que faites-vous ? » lança-t-il. « Vous n'avez point présenté vos hommages aux dames, ni demandé votre congé. »«
Elles ne goûteraient guère mes politesses, » persifla l'elfe.
Les sergents de faction sur le seuil firent mine de croiser leurs guisarmes pour barrer le passage à l'aventureux, mais Edan de Vaumacel intervint rapidement auprès du sire de Maubrenas.
« Qu'on le laisse sortir, » pressa-t-il. « Ce différend est assez malheureux, mais il n'a pas encore tourné au pied. » Il serait fâcheux d'en venir aux armes, avec un compagnon aussi vaillant que Sir Hamelin. « Vous me prêtez peut-être plus de pouvoir que je n'en ai.
grommela Dom de Beauvrenas.
Assez étrangement, ce fut Fitzurse du Havre qui, non sans un rictus ulcéré, fit signe aux gens de pied de s'écarter.
« Ce château est gangréné !»
lâcha l'aventureux en guise de remerciement, avant de s'engager vivement sous le porche. Les deux petits pages adressèrent à leur compagnon de voyage un regard déconfit en lui emboîtant le pas.
« Voici une défection aussi inattendue que déplorable !»
regretta Cohir de Thèves. Se tournant vers le chevalier aux épines, il ajouta d'un air embarrassé
« Et vous perdez un appui que vous aviez eu peine à gagner. »
« Oui, la brouille est malvenue, »
convint Edan.
« Cependant, dans un sens, elle rend aussi notre démarche moins difficile. En nous quittant, Sir Hamlin nous épargne des explications délicates sur son action avec Innsberg. Et puis, je ne suis plus aussi dépourvu de soutien que lors de mon retour dans le duché. J'espère obtenir le pardon de Madame la Duchesse, et je sais que j'ai déjà recouvré ma réputation chez ces gens. »
S'adressant au chevalier du Havre, Cohir de Thèves l'interpella alors sur un mode mi-figue mi-raisin.
« Il faudra nous raconter d'où vous tenez une livrée si extraordinaire, Sir Fitzurse. Je ne vous ferai pas le même procès que notre compagnon du bois oiselé. Mais convenez que ces couleurs ont de quoi nous surprendre. »
Le sire du Havre, qui respirait toujours assez fort et avait perdu le sourire, lança un regard ombrageux à son vis-à-vis.
« J'ai fait un vœu, » répliqua-t-il avec hauteur. « Il a été exaucé. J'ai donc tenu parole. » « Sir Fitzurse a été irréprochable, » le défendit Dom de Mauvrenas. « Nous lui devons beaucoup. Mais ne parlons point de cela en plein vent. Vous apprendrez tout ce qu'il vous plaira de savoir quand vous vous restaurerez à l'hôtel seigneurel. »
« Le seigneur de Verre va-t-il nous recevoir ?»
s'enquit le chevalier de Thèves. Dom de Mauvrenas hocha négativement du chef.
« Le seigneur de Verre a quitté le château à la tête de ses gens de guerre il y a de cela plusieurs semaines. Il a porté le fer sur les terres ducales, jusque non loin de Carwell. Vous ne le verrez pas aujourd'hui, mais peut-être en aurez-vous l'occasion sous peu. Son écuyer, le jeune Rivalon, est arrivé quelque temps avant vous pour annoncer son prochain retour. Monseigneur Méléagan s'inquiète pour sa mère et son épouse en raison de la percée ou romande autour de Kimark. Aussi veut-il renforcer la garnison de Verre.
Les portes et le rempart semblent pourtant bien gardés,
observa le sire de Vaumacel.
Il reste un bon contingent de gens de pied, confirma Dom de Maubrenas. Mais nous ne sommes que trois chevaliers et trois écuyers. C'est peu pour défendre une place certes puissante, mais pleine de recoins à surveiller.
Eh bien, mon cher Dom, ce sera un honneur et un privilège de vous épauler à nouveau,
sourit le sire de Thèves.
Votre renfort ne sera pas de trop,
se réjouit son ancien frère d'armes. Des valets proposèrent aux voyageurs et à leurs écuyers de se laver et de se changer avant d'être introduits en présence de la dame de Verre. Cohir de Thèves s'étonna toutefois qu'on ne les invitât point à se rendre dans la tour d'Esperte où se trouvait la baignerie du château. Après les fatigues de la chevauchée, il eut d'autant mieux apprécié un bon bain que sa hanche restait douloureuse. Comme il faisait cette requête, il surprit un air d'embarras sur l'expression du chevalier de Maubrenas.
« J'en suis fâché pour vous, mais cela ne sera pas possible, »
énonça Fitzurse du Havre. « Cette tour n'abrite plus d'étuve. » Devant le regard surpris du sire de Thèves, il crut bon de préciser
« Le sauvetage inespéré de Madame Odéarde a ramené le seigneur et la dame de Verre dans le droit chemin. Par piété, ils ont banni de leurs usages certaines conduites que la décence réprouve. Voilà pourquoi la baignerie a été fermée et son enceinte rendue à sa destination première, qui était religieuse et non frivole.
« Mais n'ayez crainte, » se hâta d'ajouter le sire de Maubrenas.
Vert est toujours aussi hospitalier. Je ne doute pas qu'on vous apportera un nécessaire à toilette dans vos quartiers. De surcroît, le seigneur et la plupart de ses gens de guerre étant partis, vous serez sans doute logés dans de beaux appartements. »
Les deux chevaliers servants de la duchesse s'apprêtèrent à prendre temporairement congé des voyageurs. Fitzurse du Havne devait reprendre sa faction dans l'antichambre d'Odéarde de Maginois, tandis que Dame de Maubrenas regagnait la grande salle de l'hôtel seigneurel, où il voulait aviser sans tarder la châtelaine de Vert du faux bond du chevalier au pis. Ils accompagnèrent toutefois les sires de Thèves et de Vaumacel à l'entrée du logis noble, remontant d'abord la galerie de bois qui permettait d'accéder à l'étage. Quoique l'hôtel seigneurel formât un véritable palais, il était intégré à l'architecture défensive du château et il aurait suffi d'en démolir l'escalier extérieur pour le rendre impénétrable depuis la cour. Le premier couloir que suivirent les visiteurs à l'intérieur de l'édifice était fort sombre, aussi étroit que haut. Le valet qui les guidait les mit en garde contre la porte close à laquelle ils semblaient mener. C'était un trompe-l'œil peint avec un art remarquable, la pénombre parachevant l'illusion. En fait, le corridor tournait à angle droit et desservait deux nouvelles portes enchâssées dans une étrange disposition. La première ouvrait sur un large escalier en spirale qui s'enroulait autour d'un massif pilier de maçonnerie. Une seconde ouverture, plus petite, était ménagée dans cette colonne axiale. Elle était fermée par un battant couvert de ferronnerie et portait sur son chambranle un curieux bas-relief. Un visage bifront au bois naissant. « N'empruntez pas la porte du cornu, » avertit l'un des serviteurs. « Son escalier ne vous mènera pas aux étages nobles. Il vous perdra dans les Luiselles ou dans le château célestiel. » La compagnie emprunta donc les larges degrés extérieurs aux piliers. Tout en montant l'escalier sur les talons des chevaliers, le petit Kell demanda
« Qu'est-ce que c'est, les Luiselles ?»«
Ce sont les caves sous le château, » répondit le serviteur. « Ne va pas t'y promener, mon joli. C'est plein d'oubliettes toutes noires qui dégringolent dans le seau le cerf et les ossuaires. » Au second étage, les chevaliers se séparèrent. Les sires de Maubrenas et du Havne continuèrent à monter, tandis que les valets engageaient les nouveaux venus à rester sur ce palier. Ils les menèrent dans une galerie ouverte sur la cour, qu'ils surplombaient déjà de façon vertigineuse, comme s'ils avaient été perchés sur un chemin de ronde. Pourtant, tours et remparts continuaient à les dominer de toute leur hauteur, tant et si bien que, malgré l'élégance des colonnettes qui formaient l'arcade, la claire-voie de la galerie ne dispensait que peu de jours. Les chevaliers et leurs gens furent menés en deux chambres séparées de la tour de l'Estorbel, les quartiers du sire de Vaumacel étant situés un étage au-dessus de celui du sire de Thèves. Celui-ci fut sensible à l'attention qu'on avait eue à son égard, en évitant de le faire monter trop haut. Le simple fait de grimper jusqu'en ses appartements avait déjà représenté une épreuve pour sa hanche mal remise.
« On voit que Monseigneur Méléagant a vidé Vert de ses gens de guerre, » observa-t-il avant de laisser son compagnon poursuivre son ascension. « Si le château avait été normalement peuplé, nous n'aurions pas été logés dans des appartements séparés. »
L'escalier à vis qu'empruntèrent ensuite le chevalier de Vaumacel et ses gens était fort raide, mais leur permit d'accéder à une belle salle au confort raffiné. C'était une pièce ronde, appelée par les valets la chambre au rebec, parce qu'une frise peinte y représentait ses instruments à cordes entre les mains de petits personnages humains ou animaux. On dit aux invités que c'était un usage du château d'y désigner les appartements par les instruments de musique qui y ornaient les murs ou le solivage. L'endroit chatoyait de couleurs. Par une fenêtre haute, profondément creusée dans l'épaisseur du mur et presque aussi étroite qu'une meurtrière, tombait un flot de lumière oblique et dorée comme une gloire. Le contraste était saisissant après la pénombre de la cour, des galeries et des escaliers, Ce ray de soleil ravivait les teintes un peu passées des fresques murales, enluminait les riches coloris des tapisseries et tentures, miroitait sur le couvercle ciré des coffres et transmutait en poudre d'or les poussières en suspension. Deux brocs d'eau et quelques coterets de bois étaient déjà disposés au pied d'une belle cheminée dont la plaque de contrecœur portait les armoiries ducales. Cet air circulaire se trouvait si richement habillé d'étoffes et de draperies qu'elle donnait plus le sentiment d'entrer dans un pavillon de fête que dans le réduit d'une place forte. Kel et Nem prirent aussitôt possession des lieux pour décharger leurs bagages et préparer la toilette du chevalier. Eddan fit quelques pas dans la pièce, laissant errer ses yeux sur les motifs des fresques et des tapisseries. « La dame enverra quelqu'un vous requérir, quand elle aura le loisir de vous voir », avertit le dernier valet sur le point de sortir. « Si vous quittez cette chambre de votre propre chef, prenez bien vos repères. On se perd souvent dans le château quand on ne le connaît point. » Le page, fort affairé à ouvrir les coffres pour voir où il rangerait son équipement, fit mine de n'avoir rien entendu, mais Nem se rendit bien compte que la curiosité du garnement était piquée. De son côté, le vieil écuyer grimpa les quelques marches qui donnaient accès à la fenêtre au fond de sa niche. Ayant ouvert le battant, il jeta un coup d'œil à l'extérieur. La chambre donnait sur le grand air, hors de l'enceinte de verre. On entendait le grondement des rapides et de la chute de la rivière, si loin en contrebas qu'il était impossible de les voir sans pencher la tête hors du cadre. De l'autre côté du flot, la masse formidable de la fortification construite sur le dernier îlot formait comme une gorge au-dessus du cours d'eau, mais pour l'essentiel, la vue dominait la nécropole, sa triste forêt et les collines basses des alentours. À cette altitude, on découvrait surtout l'agencement harmonieux des allées et la superbe des monuments funéraires. Le bosquet inspirait une forme de quiétude altière. Nem prit le temps d'apprécier la caresse du soleil, qui lui avait paru fortement fraîchie sous les arbres souffreteux et le long de la rive. Peu après, les deux valets d'armes assistèrent leur seigneur à sa toilette. Faute de cuvier, le chevalier ne put prendre de bain, mais il ne s'en dévêtit pas moins pour se laver des pieds à la tête. L'écuyer, après lui avoir ôté son bandage, constata que la blessure était presque complètement cicatrisée. Eddan décida donc de se passer de pansement. Une fois propre, il vérifia qu'il n'avait pas besoin d'épouillage, puis se fit raser et peigner avec soin. Kel apporta une touche finale à ses apprêts, en épilant quelques poils rebelles des sourcils. Pour paraître en présence des dames, le sire de Vaumacel revêtit ensuite ses chausses de quincil, sa cotte hardie à collet fourré de verre, et se chaussa de heuses fines qui épousaient étroitement le pied.
« Vous verrez peut-être la duchesse dès ce soir », envisagea Nem en achevant de l'ajuster. « Ne craignez-vous pas trop d'essuyer son ressentiment ?»
« Ce ne serait pas la première fois qu'elle me prendrait à partie. »
Un sourire un peu suffisant effleura les lèvres du chevalier.
« Plus une dame met de feu dans ses reproches,
observa-t-il,
moins vous lui êtes indifférent. »
Lorsqu'il fut prêt, le sire de Vaumacel recommanda à son écuyer de se rendre présentable. Il s'en ferait seconder pour paraître en société. Kel était tout disposé à compléter l'escorte, mais son maître déclina fermement cette offre et préféra lui assigner ses corvées ordinaires de nettoyage et de rangement. Nem avait à peine eu le temps d'enfiler un pourpoint un peu plus habillé quand on vint les chercher. La dame Azalaïs de Bromel invitait le chevalier à la rencontrer dans la salle noble de l'hôtel seigneurel.